Benoît Peters, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous autour de la figure d'Alain Robbe-Grillet, autour de laquelle vous faites paraître deux livres. Alors, le premier qui est une biographie existentielle et intellectuelle aux éditions Flammarion, qui s'appelle Robbe-Grillet, l'aventure du nouveau roman. Et puis, et c'est très important parce que je pense que les deux livres ont des échos permanents, un ensemble d'entretiens qui s'appelle, que vous avez renommé Réinventer le roman, qui paraissent en Champ Flammarion, et qui sont issus d'entretiens que vous avez menés, publiés une première fois avec un livre aux impressions nouvelles sans format DVD, et que vous avez à la fois retranscrit, mais aussi réécrit pour vraiment avoir une forme très lisible, et qui sont des 6 heures, plus de 6 heures, je crois, d'échanges avec Alain Robbe-Grillet, qui retrace avec vous l'ensemble de son parcours. Alors, Alain Robbe-Grillet, c'est une figure assez singulière, à la fois tout le monde en connaît le nom, et puis ça peut faire penser un peu à ce que disait Jean-Luc Godard, avec qui il a un certain nombre de points communs à la fin de sa vie, où Jean-Luc Godard évoquait le fait que tout le monde connaissait son nom, mais que plus personne n'allait voir ses films, ou alors seulement les premiers, et on peut considérer que jusqu'à un certain point, Alain Robbe-Grillet a connu un destin aussi un peu proche. C'est un nom que tout le monde connaît, même si on n'est pas étudiant en littérature, mais ceux qui lisent ses livres lisent souvent ses livres du premier moment, on va dire du moment des années 50. Et justement, on insistera peut-être aussi sur les autres livres dans lesquels il s'est beaucoup réinventé et qui sont extrêmement importants. Et justement, l'un des objets, me semble-t-il, de vos deux livres, c'est de permettre de rendre compte de la vie et de l'œuvre d'Alain Robbe-Grillet dans toutes ses nuances et dans tous ses paradoxes, et ils sont nombreux. C'est un homme qui aimait et qui assumait aimer la contradiction, même vis-à-vis de lui-même, et aussi contre une vision hiératique, monolithique qu'on peut avoir d'Alain Robbe-Grillet, mais à laquelle, il faut convenir, lui-même a beaucoup participé. Robbe-Grillet, c'est avant tout l'auteur d'une œuvre littéraire essentielle du XXe siècle, et je pense que l'un des grands mérites de vos deux livres, c'est de donner envie de relire Robbe-Grillet, et surtout de montrer que c'est un plaisir de lecture, et ça, je pense qu'il faudra aussi y insister, absolument considérable. Alors, et évidemment, Robbe-Grillet, puisqu'on ne pourra pas en faire l'économie, c'est, comme vous le dites en sous-titre de votre biographie, c'est l'aventure du nouveau roman, et là aussi, il faudra rendre compte de toutes les subtilités de cette aventure, qui, pareil, n'est pas du tout une chose d'un seul bloc. Alors, peut-être, pour commencer, à la fois, justement, sur le versant biographique et intellectuel, donner un peu le cadre dans lequel apparaît Robbe-Grillet, donc, qui est né donc, en 1922. On en fait, cette année, le centenaire. Il aurait aimé, d'ailleurs, lui-même être centenaire. Et c'est à la fois la famille Robbe-Grillet, c'est une famille très singulière. Ça, j'aimerais que vous l'évoquiez. D'où vient-il, finalement, quand il commence à apparaître dans les années 1950 ?
La première chose qu'on peut dire, c'est que Alain Robbe-Grillet n'est pas un pur produit du monde des lettres. Il vient d'ailleurs, et il arrivera relativement tard à la littérature. Donc il est né à Brest, dans les environs immédiats de Brest, la proximité de l'océan sauvage, le 18 août 1922, dans une famille plutôt modeste dans ses moyens, à Paris. Les parents et les deux enfants, Anne-Lise et Alain, vivront dans un petit trois pièces dans le 14e. Donc Alain n'aura pas de chambre à lui. Le père est une gueule cassée de la guerre de 14, un peu fou. Mais le clan familial est extrêmement soudé. Ils s'aiment tous beaucoup et cela durera toute la vie. Et la mère considère avec une certaine bienveillance les bizarreries ou les errements de son mari. Donc le modèle familial est étrange de ce point de vue-là, puisque très soudé, mais acceptant d'être un peu différent des autres. Et cette différence se marquera assez fortement dans toute la carrière de Robbe-Grillet, dont on peut dire, le reste de la figure paternelle, qu'il n'y a pas vraiment eu chez lui de surmoi. On a toujours l'impression que ce qu'il veut faire, il le fait, que ce qu'il veut dire, il le dit, même si ça ne se fait pas, même si ça ne se dit pas. C'est un trait fondamental. Politiquement, la famille est très marquée à droite, mais d'une droite étrange, Action française par certains côtés, mais d'un autre côté, antimilitariste et antireligieuse. Donc une sorte de non-conformisme, mais de non-conformisme qui révélera pendant la Seconde Guerre mondiale son acceptation de la collaboration, du pétinisme. Et pour Robbe-Grillet, jeune homme, ce sera le départ au STO, donc le service du travail obligatoire à Nuremberg, où il va passer un an, qui interrompt des études qui sont plutôt des études scientifiques. C'est un bon élève, en maths, en physique, en biologie. Il se lance dans des études d'ingénieur agronome, donc il intègre l'agro. Ses parents ont fait des efforts pour qu'il puisse poursuivre ses études. Interrompu donc par un an assez dur de STO, qui peut-être commence à faire vaciller certaines des conceptions politiques qu'il avait, semblables à celles de sa famille, mais ce n'est que dans la deuxième, dernière année de Sciences Po, au retour, l'année 44-45, que véritablement une mutation, une transformation profonde de sa personnalité, de son idéologie, va avoir lieu. C'est-à-dire que là, l'année 45 est l'année de la révélation de l'horreur nazie, l'année de la révélation des camps, l'année d'Hiroshima, va représenter pour lui un choc complet, la remise en cause des valeurs familiales, mais je dirais plus profondément que des valeurs familiales, la remise en cause du sens établi, de l'ordre du monde, l'idée que cet ordre est mensonger, que le sens imposé dans les romans, le sens imposé dans le discours politique, est un sens factice. Et ce choc-là va le conduire assez vite à s'éloigner du métier qu'il a choisi et qu'il va un petit peu exercer, le métier d'ingénieur agronome, qui l'emmènera notamment sous les tropiques, en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi en Guinée. Quelque chose est miné assez vite, et donc il exerce son métier de manière un petit peu indolente, déjà pris par une passion de l'écriture, qui lui fait écrire un premier livre, Un régicide, dont le refus par Gallimard, fin 48, ne le déstabilise pas plus que ça. Le livre est refusé, il n'essaye pas de le proposer ailleurs, mais il entame très rapidement un second roman qui, lui, le lancera, qui est Les Gommes. Et donc là, on sent chez lui à la fois ce caractère atypique, donc un jeune homme qui n'est pas un produit du milieu littéraire, qui va se lancer corps et âme dans la littérature, malgré la grande pauvreté que ça lui impose, en renonçant à un métier socialement valorisé, mais aussi la confiance qui fait que, même si ce roman est refusé par celui qu'il appelle à l'époque, ironiquement, dans une lettre à Claude Ollier, le gars Limard lui a dit que c'était très bien, mais qu'il n'y avait aucun public pour ce genre de littérature, qu'importe, on continue à écrire. Ça, c'est vraiment fondamentale, avec un encouragement d'ailleurs de la part de ses parents, qui ne sont pas choqués, comme beaucoup de parents l'auraient été, de voir leur fils renoncer à un métier valorisé socialement pour s'installer dans une chambre de bonne au-dessus de leur appartement et vivre pauvrement et modestement en écrivant des romans dont il ne sait pas s'ils trouveront un jour un public.
Ça, c'est une donnée très importante, ces deux éléments que vous liez, c'est-à-dire à la fois, effectivement, cette dimension un peu de marginalité, même si elle est relative, de la famille, adossée à une certitude de sa propre valeur. Et ça, c'est quelque chose qui va accompagner la vie de Rob Grier tout au long de son parcours, et l'idée qu'effectivement, il doit faire l'œuvre qu'il a à faire, et que l'horizon du lectorat, même s'il préfère avoir des lecteurs que de ne pas en avoir, évidemment, n'est pas vraiment une contrainte. D'ailleurs, dans les entretiens qu'il a avec vous, il a un reproche un peu par rapport à une forme de littérature contemporaine qui est de dire, effectivement, on ne peut pas se écrire en fonction d'un public déterminé. Si on fait ça, on s'enferme soi-même dans un piège, et c'est l'horizon de la littérature n'est pas celui-là. Et ça, c'est, je pense, effectivement important, parce que pour le coup, même si beaucoup de choses vont changer dans son écriture et dans sa façon de concevoir la littérature, ça ne changera pas pendant, on va dire, les 50 ans durant lesquels il va écrire.
Il y a chez lui une radicalité. Cette radicalité est là, initiale, elle est la marque de son rapport au monde, qui est un rapport un peu séparé du monde. Les grands chocs littéraires qu'il a dans l'immédiate après-guerre, c'est L'étranger de Camus, et je crois qu'il faut entendre non seulement ce texte, mais ce titre, L'étranger, je crois qu'il s'identifie assez fortement à ce personnage de Meursault dont dont la compréhension du monde est décalée, La nausée de Sartre, qui le frappe beaucoup, même si l'œuvre de Sartre en son ensemble l'intéresse moins, et certainement les théories littéraires de Sartre, il va s'en démarquer très vite, et l'autre grand choc, c'est Kafka. Donc, vous voyez, lui qui a grandi dans un milieu plutôt antisémite, qui va faire de Kafka emblème de la littérature juive, son écrivain favori, accepter une part de fantastique, mais il ne travaille pas du tout, contrairement à ce qu'on croit souvent, et c'est une des choses que j'ai voulu montrer dans mon livre, il ne travaille pas du tout à partir d'un projet théorique construit. Tout à fait. En fait, ce à quoi on va associer son nom, c'est-à-dire le livre pour un nouveau roman, le plus connu de ses livres, cet ensemble d'articles assez provocateurs. En fait, c'est quelque chose qui va apparaître dans un second temps, non pas pour inspirer sa littérature, mais pour tenter tactiquement de la faire accepter par une critique conservatrice. Et donc, il va écrire dans les journaux, y compris dans l'Express, mais aussi dans des revues comme Critique ou la NRF, pour tenter peu à peu de développer une idée de la littérature, mais il la développe en tâtonnant, en cherchant, en discutant avec d'autres. Et donc là, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que la littérature de Rob Grillet, c'est d'abord une littérature qui lui est presque opaque à lui-même. Et il est déconcerté que les gens aient tant de mal à la lire, parce que pour lui, elle n'est somme toute pas plus étrange que celle des écrivains qu'il admire, qui souvent sont des écrivains d'autres langues. Alors il va se passer un événement évidemment essentiel, c'est qu'en 1952, ce n'est pas à Gallimard qu'il envoie son deuxième roman, mais à Georges Lambrix aux éditions de Minuit, qui le passe tout de suite à Jérôme Lindon, le jeune directeur des éditions de Minuit, qui s'enthousiasme et va s'établir entre ces deux jeunes hommes, presque de la même génération, il y a 3 ans d'écart, va s'établir non seulement une alliance, mais une vraie amitié. Et cette alliance-amitié permettra non seulement à la littérature de Rob Grillet d'être défendue, mais à d'autres écrivains d'être attirés aux éditions de Minuit. Lindon avait déjà découvert 2 ans auparavant Beckett. Donc Beckett est le premier grand pôle, mais Rob Grillet attirera Robert Pinget, aimé lui aussi par Beckett, de façon éphémère Nathalie Sarraute. On rééditera les tropismes parus avant-guerre dans l'indifférence générale et qui là vont attirer la lumière. Marguerite Duras pour Moderato Cantabile, qui fait une infidélité à Gallimard. Il y a Butor qui est déjà là dans la maison, même si les rapports entre les deux hommes sont compliqués. Et surtout Claude Simon qu'il va attirer. Claude Simon qui était un écrivain peu aimé par son éditeur Calman Lévy, qui lui reprochait ses bizarreries, ses outrances, bizarreries et outrances que Rob Grillet et Lindon vont l'encourager à développer. Et puis encore Claude Ollier, ami de jeunesse. Et donc tout ce petit groupe d'écrivains qui ne forme en aucun cas une école littéraire, c'est un ensemble de singularités. Tous ces auteurs se sentent mal à l'aise dans la définition étroite du roman dans le début de l'après-guerre en France. Au fond, cet héritage du roman psychologique que Rob Grillet qualifiera peut-être un peu vite de balzacien, mais qui est tout de même un roman, je dirais, peu inquiet. Et la première dimension de ces différents écrivains, c'est d'introduire de l'inquiétude, ou ce que Nathalie Sarraute, dans un essai qui deviendra fameux, appelle l'ère du soupçon. Ils sont tous différents, ils sont fondamentalement différents. Le projet de Claude Simon, le projet de Marguerite Duras, le projet de Butor n'ont pas grand-chose à voir avec celui de Rob Grillet, mais ils se retrouvent sur une chose, le refus des formes convenues, des formes conventionnelles de la narration, je dirais un peu plan-plan, qui fait un petit peu comme si rien ne s'était passé. Or, on peut considérer que le nouveau roman, qui est quand même le plus important mouvement littéraire en France dans l'après-guerre, et peut-être même par-delà la France, un des plus importants mouvements littéraires de la seconde moitié du XXe siècle, puisqu'il aura un rayonnement mondial. Le nouveau roman est la réponse au choc de la Seconde Guerre mondiale, exactement comme le surréalisme a été la réponse au choc de la Première Guerre mondiale. Des gens se disent, et ça se retrouve d'ailleurs dans d'autres arts, ça se retrouve dans la musique, dans la peinture, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas faire comme si une certaine tranquillité du monde pouvait continuer. Et bien sûr, ce n'est pas une littérature engagée au sens sartrien, mais c'est une littérature engagée profondément dans un nouveau rapport au monde et un nouveau rapport au lecteur.
Alors, ce que vous dites est absolument essentiel, au sens où à la fois Ça permet de montrer d'abord que ce n'est pas un mouvement ex nihilo, c'est-à-dire que la filiation de Camus, de Kafka, de Faulkner aussi, qui est une figure importante pour ces écrivains-là, ou de Sartre, ils sont lecteurs de cette littérature-là, donc c'est pas quelque chose qui est, ce n'est pas une littérature tabula rasa. Et par rapport à ce que vous avez évoqué aussi, qui je pense est très important et sur lequel Rob Grillet revient dans les entretiens, c'est le rapport finalement entre réel et réalisme. Et c'est ce que dit Rob Grillet dans la critique. Il a simplifié parce qu'il était très fort justement pour donner de l'impact à ses idées en disant « je critique Balzac ». Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que, comme vous l'avez évoqué, le réel, il est opaque, il est béant, il a des trous, il est incompréhensible jusqu'à un certain point. Et là, on rejoint aussi des choses un peu liées à une forme d'existentialisme hein, sur la dimension absurde. Et ce serait absurde, justement, d'imaginer que la littérature aurait comme objet de boucher tous ces trous et de faire comme si le réel était une chose simple, compréhensible. Et c'est surtout ça qui, finalement, est le point commun entre tous ces écrivains-là. C'est en fait, ce n'est pas que leurs romans sont eux-mêmes troués, ils le sont parce que le réel est troué.
Oui, pensons à un roman extrêmement important, La route des Flandres de Claude Simon, qui paraît un an après Dans le labyrinthe de Rob Grillet, qui lui aussi traite d'une certaine façon de la guerre et de la défaite et de la débâcle. Ces livres partent de l'idée d'une incompréhension de la situation. Comment pourrait-on rendre compte linéairement de quelque chose qui n'a été que chaos, bruit et fureur, ne signifiant rien, suivant la formule célèbre de Shakespeare reprise par Faulkner. Ça, c'est vraiment un point commun chez tous. Et c'est quelque chose d'absolument sincère et d'absolument non théorique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir là une sorte de pétition de principe, presque de volonté de se distinguer, de faire les malins. Il n'y a pas du tout ça. Il y a chez eux l'idée que s'engager dans la littérature, c'est s'engager, par certains côtés, oui, dans une quête existentielle. C'est une affaire sérieuse. Rob Grillet, d'ailleurs, insistera beaucoup par rapport à la génération plus tardive des écrivains de minuit, celle des Schnauz, de Toussaint, de Tanguy Viel, de bien d'autres, en disant, avec toute l'admiration qu'il avait pour eux et en appréciant leur littérature, qu'ils ont quelque chose de trop modeste pour lui. Que leur idée, au moment du nouveau roman, était une idée démesurée. Il s'agissait d'une ambition un peu folle et d'une croyance très très profonde en la littérature. On la sent chez Beckett, bien sûr, on la sentira chez Duras jusqu'à la fin, y compris dans des formes un peu plus folkloriques ou narcissiques. Il y a là quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et Jérôme Lindon, qui hérite de la maison des éditions de minuit fondée sous l'occupation par Vercors, qui doit trouver sa légitimité, comprend assez vite que son rôle est d'encourager une forme de résistance. Et cette résistance, qui n'est pas évidemment celle des années d'occupation, prend de nouvelles formes. La forme a une résistance à la convention, à la banalité, à l'entre-soi du milieu littéraire, c'est un point, mais aussi au moment de la guerre d'Algérie, qui est tout à fait concomitante au nouveau roman, hein, puisque 54-62, ce sont les années de la guerre d'Algérie, et ce sont exactement les années phares du nouveau roman. Et donc, il comprend que la résistance prend un tour nouveau, qu'il ne s'agit pas d'avoir l'engagement sartrien, c'est-à-dire d'écrire des romans, pour le caricaturer, des romans à thèse, ou des romans réalistes socialistes, comme les prônes Aragon et les écrivains soviétiques. Il s'agit d'être engagé dans la forme, dans le risque de l'écriture et l'invention de thèmes et d'écritures nouvelles, d'une part, mais d'autre part, comme citoyen, à travers les documents édités aux éditions de minuit, la question d'Henri Allègre, l'affaire Audin et bien d'autres, ces engagements courageux qui vaudront des persécutions à la maison, d'être dans une forme d'intransigeance. Et il est très intéressant de voir cette alliance d'un projet politique et d'un projet, on pourrait dire, poétique, au sein de la même maison, ourdi par des jeunes gens qui se retrouvent, parce que ce sont des gens jeunes, à l'exception de Nathalie Sarraute, qui est d'une génération un petit peu différente, ourdis par des jeunes gens qui ne se satisfont pas de l'état du monde. Et donc, les éditions de minuit vont être extrêmement remuantes. Rob Grillet lui-même, associé avec Lindon, fait tout pour que ces auteurs qui pourraient passer inaperçus, Butor, Simon, Ollier, etc., soient remarqués. Et là, il y a une dimension que j'ai mise en avant dans mon livre et dans cette aventure du nouveau roman que je décris en même temps que la vie de Rob Grillet. C'est la générosité de Rob Grillet, qui, dès le moment où il devient conseiller littéraire aux éditions de Minuit, non seulement attire des écrivains un peu perdus, Pinget et Claude Simon notamment étaient tout à fait perdus, Marguerite Duras avant Moderato Cantabile n'osait peut-être pas aller jusqu'au bout de ses projets, de la part de radicalité qu'il y avait. Il les rassemble, mais il les défend. Et même si ses rapports personnels avec Butor vont très vite devenir difficiles, et d'ailleurs plutôt du fait de Butor, contrairement à ce qu'on croit souvent, que du fait de Rob Grillet, on voit par exemple une lettre magnifique que Rob Grillet a écrite sur l'emploi du temps de Butor pour le recommander à un critique influent de l'époque en lui disant « Si vous n'aimez pas ma littérature, peut-être aimerez-vous celle de Michel Butor ?» Et un peu plus tard, ce sera la même chose aux critiques du Monde, Émile Henriot, de dire « Le travail de Claude Simon, Le vent, L'herbe, ce sont des livres fondamentaux. Lisez-les avec attention. Ne vous arrêtez pas à la difficulté apparente de la phrase. » Et là, on peut quand même reconnaître que tant Lindon que Rob Grillet ont eu une intuition littéraire formidable, puisque ces écrivains qu'ils ont défendus, nous les considérons aujourd'hui encore, même si peut-être la mode du nouveau roman est passée. Mais bon, Beckett, qui était aux marges du nouveau roman prix Nobel, Claude Simon, révélé par Minuit, accompagné toute sa vie par Minuit, prix Nobel de littérature, Butor, Ollier, Duras, Pinget, menant chacun à leur façon des itinéraires différents, mais reconnus, en tout cas, sinon toujours par le grand public, au moins par les vrais amoureux de la littérature comme des écrivains majeurs. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très important, c'est de se rendre compte qu'il y a eu chez Rob Grillet, non pas du tout l'idée sotte de devenir le pape du nouveau roman et d'édicter les règles d'une école. Il dit « Croit-on que j'aurais choisi une telle assemblée d'hérétiques pour fonder une église ?» Ce qui est très juste, puisque ce sont des personnalités qui partent chacune et partiront de plus en plus dans des directions différentes, mais en les rassemblant, de permettre à leur originalité, finalement, de trouver un cadre qui les rendra acceptables. Le terme même de nouveau roman n'a pas été inventé par Lindon et Rob Grillet, il est venu du critique du Monde, Émile Henriot, de manière dédaigneuse, mais ça a été le génie de Lindon et Rob Grillet que de comprendre qu'on pouvait s'en servir, retourner cette désignation ironique en désignation positive et faire parler de soi. Donc il s'agissait chez eux non pas de mettre de l'eau dans son vin pour rendre les livres plus accessibles, mais de définir des stratégies, et des stratégies parfois drôles et habiles et aventureuses ou bizarroïdes, pour donner envie d'aller vers ces livres que la critique au pouvoir peut considérer comme illisibles.
Ça vous montrez effectivement ça très bien. C'est la dimension, on va dire, stratégique et très pratique, effectivement, des courriers, des jurys littéraires, de tout ce travail et de l'énergie incroyable que dépensent Rob Grillet et Lindon. Et justement, dans le cadre de ces stratégies, parce qu'on peut dire que finalement, il y a deux choses qui me semblent importantes. D'abord, c'est vous montrer aussi à quel point c'est une aventure des années 50. Alors qu'on associe beaucoup la question du nouveau roman aux années 60, où elle va produire ses effets, si l'on veut, mais le moment créatif, c'est les années 50, et comme vous le dites aussi, les années 50, c'est des années dans lesquelles la société essaie d'oublier ce qui s'est passé, se lance dans la modernité, les Trente Glorieuses, toutes ces dimensions-là, et eux viennent quand même taper dans cet effet d'oubli. Et dans la dimension, on va dire, de construction tactique, il y a aussi la place qui est accordée à Barthes, qui, on va dire, le troisième moment de la triade entre Rob Grillet, Lindon. Donc, il y a l'invention d'un écrivain, l'invention d'un éditeur et l'invention, si l'on veut, d'un critique, qui est Barthes, avec deux articles qui étudie encore souvent l'étudiant de lettres, qui est littérature littérale et littérature objective, et qui, pour Rob Grillet, sont des machines de guerre, à proprement parler, pour légitimer son travail, même si lui a des distances jusqu'à un certain point avec cette lecture-là. Ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il est prêt à accepter une forme de lecture critique qui n'est pas forcément celle de son projet, dès lors que, comme vous le dites, ça permet de faire débat et ça permet de faire lire les livres dont il est question.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la relation passionnante entre Rob Grillet et Barthes, c'est que même s'il y a un petit décalage de génération entre eux, Barthes est un peu plus âgé, Barthes débute littérairement exactement en même temps que Rob Grillet. Et donc, 53, c'est l'année de publication des Gommes, et c'est l'année de publication du degré zéro de l'écriture. On a donc là deux voies nouvelles, deux émergences, deux formes de radicalité dans la pensée de la littérature, dans la prise au sérieux de la littérature. Et c'est Jean Cayrol qui recommande à Barthes de lire Les Gommes. Barthes est enthousiaste, hésite à écrire quelque chose. Lindon et Rob Grillet, qui sympathisent avec lui, vont l'encourager. Et effectivement, littérature objective puis littérature littérale, qui paraissent en 54 et en 55, le premier sur Les Gommes, lecture un peu tardive, le deuxième, lecture immédiate du Voyeur, qui est un livre qui va faire plus de bruit que Les Gommes. Ces deux articles que nous pouvons lire aujourd'hui comme des fictions critiques, parce qu'ils développent cette idée un peu étrange de roman de l'objet, de roman dont l'homme serait chassé. Barthes ne s'intéresse quasi pas à l'intrigue des deux livres. Il se focalise sur certains moments, mais il propose une théorie extrêmement forte, nourrie de Rob Grillet, mais qui va nourrir Rob Grillet lui-même, particulièrement dans ses propos critiques. Et donc, ils s'inventent l'un l'autre, ils s'influencent mutuellement, même s'il y aura ensuite prise de distance, apparition de nouveaux critiques, de nouveaux discours sur l'œuvre, et puis finalement, rapprochement, réconciliation et considération par Rob Grillet que Barthes est tout autant que lui un écrivain et peut-être même un romancier, ce romancier que Barthes rêvait d'être à la fin de sa vie. Cette alliance et ce jeu avec les discours, parce qu'il y a d'autres approches, il y a celle de Maurice Blanchot sur Le Voyeur qui insiste davantage sur la part fantastique, la part de mystère, d'opacité, la béance que Blanchot perçoit très bien. Lucien Goldman, sociologue de la littérature, qui propose une lecture marxiste. Le grand professeur américain Bruce Morissette, qui va nous montrer que cette littérature est somme toute une littérature romanesque et qu'elle peut être lue autrement, pour peu qu'on en perçoive certaines des clés. Et ça permettra la grande notoriété de l'œuvre aux États-Unis, où Rob Grillet va rapidement devenir l'écrivain le plus connu après Sartre, l'écrivain contemporain le plus connu après Sartre. Il disait d'ailleurs parfois « Pourquoi après Sartre ?» c'était un rôle très important. Tous ces discours critiques et les discours que Rob Grillet tient lui-même, avec des revirements très fréquents d'ailleurs, où il va défendre l'objectivité, puis il va dire « Le nouveau roman est entièrement subjectif », il va interdire, ou faire mine d'interdire la métaphore, avant de dire que La Jalousie, son troisième roman publié, est entièrement métaphorique. Et donc tout cela entretient en permanence du débat, de l'interrogation, parfois subtil et sophistiqué, parfois simplificateur et provocateur. Il y aura des prix qui vont marquer, le prix des critiques pour Le Voyeur, mais rapidement le prix Renaudot pour la modification de Michel Butor, la notoriété de plusieurs de ces écrivains qui va monter assez vite. Ils vont réussir, dans la toute petite maison minuit, toute fragile, à être d'une certaine façon un autre pôle, un autre centre de la littérature française, à côté de Gallimard, qui reste la maison à Rennes, et avec d'ailleurs des relations assez subtiles, compliquées, contrastées, que je relate et qui ont été pour moi une des surprises de mon enquête. J'ai beaucoup travaillé avec l'archive de Rob Grillet, qui est à Limec, en Normandie, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, et on s'aperçoit, par exemple, du rôle tout à fait essentiel que Jean Paulhan a joué. Jean Paulhan, donc l'éminence grise de Gallimard, l'homme de la NRF, qui, alors que Gaston Gallimard se méfie de Rob Grillet, Jean Paulhan le soutient, publie systématiquement des extraits de ses romans dans la NRF, alors très très influente, essaye à plusieurs reprises de le faire passer chez Gallimard et le défend surtout par des lettres extraordinairement enthousiastes et des services personnels, puisque c'est grâce à Paulhan que Rob Grillet réussira finalement, malgré son assez grande pauvreté ou précarité, a trouvé un appartement dans un immeuble en construction à Neuilly, où Paulhan s'est arrangé pour qu'il ait des conditions très très favorables. Il faut encourager un jeune écrivain talentueux, ce qui permettra à Rob Grillet d'épouser, après 6 ans d'atermoiement, Catherine, la jeune femme qu'il a rencontrée en 1951, qui s'est faite un peu prier avant de se laisser épouser et qui sera son épouse pendant 50 ans, formant avec lui un couple tout à fait extraordinaire, un couple fusionnel et paradoxal, à la sexualité compliquée, mais vécu dans une liberté, un mouvement des rôles tout à fait étonnant. Mais voilà, on pourrait dire que ce mariage, par certains côtés, par-delà l'appartement, il le doit à Paulhan. Donc vous voyez des liens très compliqués. Paulhan aussi, au moment où Rob Grillet écrira l'année dernière à Marianne Bad, film qui connaîtra avant son triomphe à Venise quelques difficultés, Paulhan déclarera à plusieurs reprises « c'est le plus beau film des dernières années, c'est une œuvre extraordinaire, c'est la première fois que la littérature et le cinéma se rencontrent, etc. » Donc on a là quelqu'un qui va mener vraiment une aventure au début assez solitaire. Le premier Rob Grillet est assez solitaire et même assez timide sur plusieurs plans. Et puis, on aura ce Rob Grillet dont certains se souviennent, ce Rob Grillet rayonnant, pédagogue, aimant la polémique, riant un peu fort sur les plateaux télévisés, notamment chez Bernard Pivot avec Apostrophe, polémiquant avec Solaire, ce qui autrefois l'avait admiré et s'était tourné vers le nouveau roman, se trouvant de nouveaux alliés et s'inventant de nouveaux ennemis, tout cela dans une sorte de bonhomie assez étrange qui masque peut-être le fond d'angoisse que moi je vois dans sa personnalité, à travers toute son œuvre. Il y a un Rob Grillet quelque peu matamore, ou parfois même histrion, qui dissimule la profondeur de sa singularité.
Je pense qu'il est important, vous avez évoqué très précisément aussi les enjeux théoriques. Après, comme vous le dites, et vous le présentez aussi très bien dans le livre, généralement, on fait une sorte d'ensemble avec les quatre premiers livres, que sont donc Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie et Dans le Labyrinthe. D'abord, et vous le notez très bien, ces livres ne sont pas du tout homogènes. Même s'ils sont l'œuvre d'un seul homme, Rob Grillet bouge beaucoup. Et surtout, dès qu'on ouvre ces livres, on est frappé par à la fois la précision, l'élégance et la force incroyable de la langue. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui, effectivement, et on sait à quel point, justement, et c'est peut-être aussi l'un des problèmes qu'on a actuellement avec Rob Grillet, c'est qu'il était tellement recouvert d'un discours critique qu'on a fini par ne plus lire les livres. Et dès qu'on ouvre un livre de Rob Grillet, on évoquera un peu après ceux des années 60-70, on est quand même frappé par cette langue qui est vraiment merveilleuse. Enfin, c'est un très, très grand styliste.
Selon Nabokov, le nouveau roman était un peu une imposture, mais Rob Grillet était le génie des lettres françaises dans les années 50. Il considérait La Jalousie, notamment, comme le plus beau roman d'amour depuis Proust. Ça veut dire qu'il l'avait vraiment lu, qu'il l'avait perçu au-delà de la surface objective et qui a certains paru ennuyeuse parce qu'il n'avait peut-être pas la clé pour entrer dans le livre. Ce qui me frappe, c'est que D'un régicide, le premier roman qui sera publié bien après, beaucoup plus tardivement, à Dans le labyrinthe, chacun de ces cinq livres, donc les quatre publiés et l'inédit, marque une vraie rupture. Et là, je vois un héritage de la formation scientifique de Rob Grillet. En fait, ce serait moins dans un certain nombre de détails ou dans son goût des démonstrations mathématiques, dont on voit quelques exemples dans les entretiens que j'ai menés avec lui en 2001. Ce qui est important plus que cela, c'est peut-être ce côté chercheur. Il y a chez lui un nouveau défi à chaque livre et il remet les compteurs à zéro très, très profondément. Le fantastique et le réel se mêlent dans un régicide. La structure des gommes est une structure extrêmement rigoureuse. Et d'ailleurs, le roman était précédé par un scénario, on peut dire, d'une habileté diabolique. Le voyeur réduit les éléments narratifs, mais avec une invention extraordinaire, qui est que la scène essentielle n'est pas écrite et que cette scène manquante, ce trou dans l'emploi du temps du représentant de commerce perdu sur cette petite île d'allure bretonne, ce trou dans l'emploi du temps de celui qui vendait des bracelets-montres, donc la question du temps est essentielle, irradie tout le roman et toutes les descriptions du roman. C'est-à-dire que là où nous pourrions avoir l'impression du compte-rendu trop minutieux
de journées un peu vaines d'un représentant qui ne parviendra pas au bout de son projet, tout d'un coup, quand nous commençons à comprendre comment ce livre fonctionne, nous voyons le texte nous renvoyer, presque à la façon d'Agatha Christie, mais avec une toute autre langue, tous les échos du crime et tous les échos de l'horreur qui sont là, dès la première phrase du roman. On a souvent qualifié le nouveau roman d'école du regard, et je suis frappé par cette première phrase du roman, c'est comme si personne n'avait entendu. C'est-à-dire que là où nous attendons la vue, et là où la description va être très forte, il nous dit, l'air de rien, comme ça, phrase anodine, c'est autre chose qu'il faut entendre, c'est un autre texte qui est là sous le texte. C'est un roman qu'on pourrait d'ailleurs, de ce point de vue-là, qualifier de psychanalytique ou de lacanien, même si Rob Grillet disait se méfier de la psychanalyse, mais il ne se méfiait de la psychanalyse parce que peut-être elle le concernait un peu trop. Avec la jalousie, nouvelle rupture, une description d'allure objective qui en fait est l'apogée de la subjectivité. Tout est vu à travers les yeux d'un personnage absent qui ne dit pas « je », qui ne dit jamais « je ». Mais quand on regarde la disposition des couverts, des chaises, de tous les éléments, on sent cette présence, ce regard fou, ce regard obsessionnel. Le critique Émile Henriot avait dit dans son article sur la jalousie, c'est un livre absolument illisible, incompréhensible. Le texte de quatrième de couverture prétend qu'il y a trois personnages. Personnellement, je n'en ai vu que deux. Bon, et donc, si effectivement on reste au niveau superficiel de lecture, on voit une longue description de bananeraies, de maisons coloniales, et on se dit en quoi cela nous concerne-t-il. Quand on commence à sentir ce qui se passe dans le livre, on voit une vibration absolument continue. Et de la même façon, dans le labyrinthe, là où le je est présent, mais va et vient, s'en va, cette histoire d'un soldat perdu autour d'une gravure représentant la défaite de Reichenfels. C'est une histoire hallucinée, ce soldat perdu dans la neige, errant, se perdant, trouvant refuge, cherchant on ne sait quoi, et d'une ambiance totalement différente et d'une force à la fois fantastique et historique tout à fait extraordinaire. Je pense que là, Rob Grillet revisite à sa façon et la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il en a vécu, du sentiment de la débâcle et de la perte, de son propre retour du STO au moment où refluaient les troupes allemandes, mais aussi de la perte de sens dans la guerre d'Algérie, de ce droit à l'insoumission pour lequel il va signer quelques mois plus tard le fameux Manifeste des 121, avec tous les nouveaux romanciers, et Sartre et d'autres, ce qui leur vaudra à tous des ennuis. Mais donc, quand on pense que c'est une littérature désincarnée, je crois qu'on passe à côté. Simplement, effectivement, les discours sur le nouveau roman, et surtout les discours simplificateurs sur le nouveau roman, font qu'on a cherché à voir dans les livres l'application de théories qui, pour Rob Grillet, n'étaient que des théories ad hoc, que des théories provisoires, des façons de susciter le débat, de réveiller la critique, mais qui n'étaient en aucun cas les lectures réelles de ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, quel grand écrivain c'est réellement ce qu'il a fait. Donc, si intelligent Rob Grillet fut-il, si remarquable pédagogue est-il été aux États-Unis et ailleurs, profondément, sa littérature est plus forte que le discours qu'il a pu tenir à son propos. Et notre chance aujourd'hui, qu'il n'est plus là, notre chance, c'est de le lire vraiment et de ne pas nous laisser intimider par les discours qu'il a tenu ou que d'autres ont tenu à son propos. Il y a effectivement un Rob Grillet de Blanchot, un Rob Grillet de Barthes, un Rob Grillet de Genette, un Rob Grillet de Jean Ricardou, figure dont on n'a pas encore parlé, mais qui a voulu unifier vers 1971, dans un colloque fameux à Cerisy-la-Salle, unifier le nouveau roman. Rob Grillet a joué avec lui, l'a inclus dans son projet avant de marquer sa distance. J'ai été témoin de ces conflits parce que j'étais présent il y a bien longtemps au colloque Rob Grillet de 1975 où on sentait cette tension entre une théorie unificatrice, celle de Ricardou, et une volonté d'indépendance, celle de Rob Grillet. Aujourd'hui, je plaiderais vraiment pour qu'on relise ces livres comme on lit ceux de Julien Gracq, ceux de Pérec, ceux de Gary. Abordons-les avec une certaine fraîcheur, décapons-les. Comment on restaure un tableau. Voilà. Enlevons les couches de vernis critique qui ont quelque peu jauni, ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient inutiles, mais décapons, revenons au texte, et bien entendu, le projet biographique qui a été le mien n'est pas du tout une façon d'imposer une lecture biographique qui serait la nouvelle vérité du texte, mais d'éclairer cette histoire pour, d'une certaine façon, permettre peut-être un abord plus nu des livres et des films même, en tout cas des meilleurs des films que Rob Grier a réalisés.
Parce que, comme vous l'effectivement vous l'évoquez, les années 60-70, c'est un moment assez paradoxal, ou alors c'est à la fois le pic critique et même théorique, puisque c'est aussi un moment où la critique se perçoit comme science et a un désir de scientificité parfois un peu excessif. Et en même temps, c'est probablement l'un des moments où Rob Grier fait ses livres les plus libres, probablement les moins lus aujourd'hui, que sont La Maison des Rendez-vous, qui, même si elle a été un grand succès au moment de la parution, est maintenant un livre peu lu. Topologie d'une cité fantôme, alors, dont on peut penser d'ailleurs par rapport à votre propre œuvre qu'elle a eu un écho dans les cités obscures, mais et qui fait écho à ce qu'il dit aussi dans les entretiens, quand il dit en fait qu'il aurait bien aimé construire des villes. Et je pense qu'effectivement, ce livre-là est tout à fait dans ce cadre-là. Et puis aussi, à la fin des années 70, un livre sur lequel vous attardez, qui je pense effectivement assez étonnant et qu'il faut probablement faire découvrir parce qu'il est l'un des plus étonnants et accessibles, qui est Jean, qui lui-même sort d'un projet assez étonnant, puisque c'est une universitaire américaine qui lui demande d'écrire un livre pour aider ses étudiants à prendre conscience de la grammaire française, et qui va produire un livre extrêmement joyeux, au sens où on sent qu'il retrouve là une forme de plaisir d'écrire par la contrainte.
Tout à fait. Jean est un petit roman fantastique qui, à partir de la progression de la langue française, progression du vocabulaire, mais surtout progression des temps grammaticaux et des modes grammaticaux, va amener Rob Grier à s'aventurer de plus en plus dans le policier, le fantastique et même la science-fiction. Et il y a un jeu qu'on pourrait rapprocher par moment de l'Oulipo, mais où on retrouve en même temps tout l'univers de Rob Grier. Je crois que Jean, Un trou rouge entre les pavés disjoints, est une belle porte d'entrée pour de jeunes lectrices et lecteurs d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas un livre qui correspond du tout au canon du nouveau roman. C'est un livre d'ailleurs plein de personnages et de retournements. C'est un livre extrêmement romanesque, alors que l'idée reçue sur le nouveau roman, c'est l'histoire est bannie, le personnage est banni, etc. Il faut vraiment ne pas avoir lu Rob Grier pour dire ça. C'est un livre joyeux. En plus, tout comme La Maison de Rendez-vous que vous avez cité, qui est une sorte de roman d'aventure parodique, mais en même temps où l'écriture de Rob Grier atteint une musicalité nouvelle. Une autre belle porte d'entrée dans l'œuvre, c'est la trilogie autobiographique oui. Les Romanesques, ou Romanesques, avec Le Miroir qui revient, où les souvenirs d'enfance sont très présents, Angélique ou L'Enchantement, où la fantasmatique sexuelle est plus marquée, et le dernier, très très beau, moins connu, Les Derniers Jours de Corinthe, qui est un roman crépusculaire où l'on sent en même temps le retour de Rob Grier vers les mythologies bretonnes de son enfance, les contes et légendes, la présence du double, la fascination pour Wagner, qui est très importante chez lui. Voilà, c'est son Crépuscule des dieux, mais c'est un très beau livre. Donc l'œuvre ne s'est pas du tout arrêtée au début des années 60, même si, à ce moment-là, avec L'Année dernière à Maria Edbad, puis L'Immortel, puis Trans-Europe Express, le cinéma prend une place importante dans les années 60. Ce sera une autre carrière. Réussite éblouissante de cette collaboration avec Alain Resnais dans L'Année dernière à Maria Edbad, qui est un film, d'ailleurs, par-delà sa beauté formelle et ses audaces, qui est une histoire dans le monde des morts, qui est une histoire de fantômes incroyable, profondément que raconte L'Année dernière à Maria Edbad, c'est la possibilité d'arracher au monde des ombres cette jeune femme, Delphine Seyrig, et de l'amener peu à peu vers le sentiment et vers la vie.
Et on sait à quel
peut-être
point...
cette lecture-là suppose-t-elle qu'on ait vu plusieurs fois le film, mais moi c'est ce qui me frappe de plus en plus, et donc on est loin là d'une sorte de pur défilé Chanel dans les châteaux bavarois auxquels certains réduiraient ce film, et puis la voix crépusculaire. Une fois de plus, je m'avance le long de ces couloirs dans cet hôtel immense, luxueux, baroque, etc. Bon, c'est un très très beau texte, mais profondément, ce que raconte le film, c'est une véritable histoire. C'est une histoire de mémoire, de possession, de conviction. Voilà, c'est un très très beau film. L'Immortel est plein de qualités aussi. Trans-Europe Express, qui est une comédie dans laquelle Rob Grillet et sa femme jouent, c'est une sorte de film à l'intérieur du film, de film en train de se faire, avec un trintignant remarquable. L'œuvre de cinéaste de Rob Grillet a bien commencé. Je trouve que les films plus tardifs, disons les films en couleur, ont davantage vieilli, que leur érotisme nous paraît peut-être aujourd'hui assez daté, la transgression peut-être plus limitée qu'elle ne l'était. Il y aura peut-être à un moment quelque chose qui fait que ce qui était retenu, ce qui était contraint dans les premiers livres et les premiers films de Rob Grillet, c'est-à-dire cette fantasmatique sadomasochiste, mais dans son cas, il faut bien le dire, surtout sadique, qui était un des moteurs de son écriture depuis le début, quand elle se libère, quand elle s'affiche, perd peut-être, en tout cas c'est mon interprétation, un peu de sa force. Et je préfère les livres où je sens cette tension retenue par autre chose, mais pourtant extraordinairement présente. Au fond, Rob Grillet avait un univers intérieur difficilement communicable. Et c'est petit à petit qu'il a laissé cette part de lui-même, qui lui avait valu certainement pas mal de souffrances dans sa jeunesse, d'incompréhension autour de lui, notamment dans ses premières relations avec des jeunes filles où bon, il se rendait compte que ça ne se passait pas tout à fait comme ça devrait. Cette part-là a nourri très profondément son œuvre et a donné une force vraiment très grande à un certain nombre de livres.
Avec justement, parce que une clôture là aussi sur un livre qui est probablement à la fois bien reçu et maintenant malheureusement peu lu, qui est La Reprise, et qui est lui-même fait écho presque à l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que d'abord, cette idée même de reprise, c'est-à-dire non pas du tout la répétition qui fait référence à Kierkegaard, c'est-à-dire qu'à la fois on se ressaisit des choses, mais on les reformule autrement, et le passé ne cesse de nourrir ce qui va advenir. C'est à la fois pour lui, d'abord, l'occasion de faire un livre qui est vraiment un livre extrêmement fort, et en même temps, l'idée de retraverser son œuvre, mais pas sur une vision nostalgique, sur une vision de se dire finalement, la réécriture est elle-même sans cesse au cœur de l'écriture. Et c'est quand même, je pense, l'une des plus belles, on va dire, clôtures d'œuvres que l'on peut connaître dans la littérature contemporaine, au sens où c'est pas un livre de la fin d'un homme épuisé. C'est, étrangement, alors qu'il a 80 ans, c'est un livre qui a une sorte de vigueur assez, assez singulière.
Oui, c'est curieux parce que c'est le livre précédent que j'évoquais, Les derniers jours de Corinthe, qui est écrit nettement plus tôt, qui a un caractère crépusculaire, comme un adieu à la littérature. Et puis La Reprise, qui est liée en partie à la destruction par la tempête de 99 du parc du château qu'il occupait depuis très longtemps et qui continuait un peu son goût d'ingénieur agronome pour les arbres et les plantes, et dont j'ai beaucoup été témoin. Rob Grillet était d'une érudition extraordinaire sur les arbres et d'une vraie passion. Et cette tempête qui abat le parc dont il s'occupe depuis 30 ans, plus de 30 ans, lui donne une nouvelle énergie. Et La Reprise est une manière non seulement de reprendre la structure des gommes, mais de revisiter toute son œuvre. Le roman se situe en Allemagne. C'est aussi une façon de revisiter cette Allemagne de l'après-guerre, mais lui a connu celle de la guerre. Une Allemagne détruite et une Allemagne détruite et destructrice. Et donc là, on revient au cœur de la chose, c'est-à-dire que cette ruine fondamentale et cette ruine du sens sont très importantes. Vous parliez tout à l'heure, et je ne vous ai pas vraiment répondu, sur le réel et le réalisme. Et Rob Grillet, qui n'aimait pas trop Lacan, mais qui l'avait un peu lu quand même, aimait citer cette formule de Lacan: le réel, c'est ce à quoi je me cogne. Le réel, c'est ce sur quoi je bute. C'est ça des choses absolument fondamentales. Le réalisme, ce serait cette imposture qui voudrait lisser les choses, qui voudrait que toute histoire ait un début, un milieu, une fin, que tout secret finisse par être expliqué, que tout détail de l'intrigue finisse par trouver son correspondant. Et cela, pour Grier, lui semble faux, non seulement littérairement, mais existentiellement. Et il suffit pour chacun d'entre nous de penser à tel ou tel épisode de sa propre vie, telle rencontre, tel accident de parcours, pour se rendre compte à quel point c'est toujours embrouillé, incomplet, imparfait, et que l'ordre que le roman classique voulait nous imposer, effectivement, ou que les séries télévisées, pour la plupart, nous montrent, ou beaucoup de films, enfin, dans la grande mécanique du film en trois actes hollywoodien, réduit cette complexité du réel. Et là encore, Rome Grillet serait plus proche des scientifiques, pour lesquels c'est toujours les zones d'incompréhension, les trous, les questions sans réponse qui stimulent et qui guident. Et on sait très bien que l'on sort de la science dès lors qu'on la fige en certitude, qu'on croit avoir compris telle ou telle loi de la nature, alors que c'est évidemment le détail, l'exception, la chose dont la théorie n'a pas rendu compte, qui permet de cheminer. Cette dimension-là est très forte chez Rome Grillet, et elle n'est pas formaliste, comme on l'a cru. C'est-à-dire que, profondément, il restait habité par cette idée que peut-être il ne se comprenait pas lui-même, et qu'il ne comprenait pas le monde. Et je l'ai souvent entendu évoquer le dossier Warren sur l'assassinat de Kennedy comme une des métaphores, peut-être, de cette perception. C'est-à-dire, on a beau accumuler des milliers et des milliers de pages, de photos, de documents, de bouts de films, les interpréter dans tous les sens, plus il y a de pièces, on pourrait penser aussi à la mort de Marilyn Monroe qui a fait couler tant d'encre, plus il y a de pièces, plus il y a d'opacité. Et cette idée-là est très forte parce qu'elle n'ôte pas la fascination. Elle vient nous dire que la fascination repose sur autre chose, sur une béance profonde du monde et du sens. Donc vous voyez qu'il y a là, chez Rome Grillet, par-delà les discours parfois un peu simplistes, une intuition très profonde qui est celle, au fond, de tout artiste sincère et de tout auteur sincère, d'être confronté à la difficulté de faire le tour des choses ou à l'impossibilité de faire le tour des choses. Et on pourrait dire, pour prendre deux œuvres nobélisées et très différentes de celles de Rome Grillet, celle de Modiano et celle d'Annie Ernaux, on pourrait dire que eux aussi, elles aussi, sont confrontées à la même chose. Pour Modiano, peut-être une interrogation sur les figures parentales défaillantes avec lesquels il a grandi, et sur cette période de l'occupation dont il a connu les échos, et sur laquelle il revient sans cesse parce qu'il n'en fait pas le tour. Non, il n'écrit pas le même livre, il essaye éternellement de percer un secret qui se dérobe à chaque fois. Et chez Annie Ernaux, à partir de cette enfance, de ce contexte parental, de cet arrachement à son milieu, revenir et creuser à nouveau différemment tel ou tel épisode, tel ou tel moment, les re-raconter, parce que même d'une vie, d'une seule vie, on ne fait pas le tour. Et donc, vous voyez qu'il y a là une dimension sérieuse de la littérature, qui est au fond une interrogation quelque peu obsessionnelle, car beaucoup d'œuvres sont obsessionnelles, n'est pas liée à la répétition. Oui, il y a bien ce mot que vous évoquiez, ce mot de Kierkegaard, de reprise. On reprend, mais on reprend pour aller plus loin. Et je crois que la force du lectrice ou de la lecteur, ou du lecteur, c'est d'accompagner ce mouvement. Et c'est pourquoi, quelquefois, quand nous aimons un écrivain, nous le lisons nous-mêmes, un peu obsessionnellement. Nous avons envie d'avoir tout lu de lui, tout en sachant qu'on n'en fera pas le tour. Et moi, en tant que biographe, évidemment, m'attachant à des figures comme celle de Ferenczi, de Paul Valéry, de Derrida, ou aujourd'hui de Rome Grillet, j'ai à la fois cette envie de les comprendre et ce sentiment que quelque chose m'échappera, qui est infiniment précieux et respectable, et que la biographie, ou l'approche biographique telle que je tente de la faire, ne veut pas poser un point final, ne veut pas dire « ça y est, voilà ce qu'il était ». Et je termine ce livre sur Rome Grillet par le sentiment du mystère que je perçois encore par rapport à cet homme que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup étudié, par rapport à cette œuvre que j'ai lue et relue, avec ses aspérités, avec les choses qui me touchent et celles qui me touchent moins, mais ce sentiment que voilà, je n'en ai pas fait le tour. Or, ne pas en avoir fait le tour, qui est peut-être d'ailleurs ce qu'il aurait aimé dans ce livre, puisque je pense qu'une approche biographique lui aurait un peu fait peur par le caractère, le risque de réduction, de dire « il était cela ». Voilà ce qu'était Roquelet. Mais j'espère qu'il aurait senti dans mon livre ce caractère interrogatif qui fait que finalement, malgré l'accumulation des faits, oui, je suis bien, moi aussi, du côté de l'ère du soupçon et de l'interminable. Et de ce très beau mot de Freud, de l'unheimlich, le familier et l'étrange à la fois. Il m'était familier. Il m'était étrange, il me reste étrange, et ça fait partie de la beauté de l'œuvre que de ne pas se dire « ça y est, je l'ai compris ». Or, quand on lit certains des petits essais de Rob Grier, on se dit « ah oui, j'ai compris, ah oui, j'ai compris le personnage, c'est fini, ah oui, l'objet, c'est très important, etc. Ah oui, la métaphore, ça... » Non, mais ça, ce sont des fausses compréhensions, ce sont des compréhensions provisoires et qu'il faut savoir dépasser pour revenir à ce qui comptait pour lui le plus, c'est-à-dire la fiction.
Benoît Peters, merci beaucoup de nous avoir comme ça rendu le mystère Rob Grier, si l'on peut l'appeler ainsi, et puis surtout de nous inviter à reprendre sans fin la lecture de cette œuvre, qui est vraiment, rappelons-le, une œuvre magnifique et dans l'émotion qu'elle suscite chez son lecteur. Merci beaucoup, Benoît Peters.
Merci à vous.